point de fuite.
Promis hier, Muriel Mera, bonjour d'abord.
Bonjour Pascal Bernard.
Nous mettons le cap sur l'Ouest américain cet après-midi. Road trip garanti, sans pour autant quitter notre bonne vieille Suisse romande.
Bah ouais, c'est toute la magie de la radio ça.
Ah hein. Oui.
Vous prenez un photographe, Claude Ducet, un auteur, Quentin Mouron. Vous leur faites parler de leur livre, Lost, paru chez Fabre et... Partez en voyage?
Bah oui.
Il faut dire que ces deux-là connaissent bien l'Ouest américain, l'Utah, le Nevada, la Californie, l'Arizona. Claude Ducet a parcouru cette région à plusieurs reprises, lors de vacances en famille. Et Quentin Mouron, lui, y a habité un an, adolescent, avec ses parents, dans une caravane. Puis à 20 ans, il l'a sillonné en décapotable. Alors Lost, hein, c'est avant tout un livre de photos. Des photos en noir et blanc, rugueuses, aux grains épais, qui racontent avec poésie ces lieux de l'Ouest américain où caravanes déglinguées, enseignes de motels décatis et vieilles voitures rouillées semblent faire partie du paysage. Un long poème de Quentin Mouron accompagne ces photos. Un poème qui, lui, dit la poussière, l'aridité, le temps qui passe et qui ne laisse que des ruines.
Et pour évoquer ce livre, vous nous embarquez sur les routes romandes, justement. Ben on va quand même faire un road trip, mais en Suisse romande, comme on disait. Et on va l'entendre, ce voyage, comme tout voyage qui se respecte, hein, évidemment, comporte son lot d'accidents. Voici donc, nous poussons notre poussière encore un peu plus loin. C'est votre entretien, Muriel Mera. Réalisation, Jean-Daniel Mottet.
Tu me diras où on va ? Tu connais la route ou bien on part en...
Ouais, tu vas jusqu'au rond-point et tu...
Juste fermer la porte, parce que ça, c'est mieux, on risque d'avoir une amende. Non. Mais c'est pas possible, ça ne démarre pas. Ah, parce que le volant... Ah ouais. Il fallait débloquer le volant. Bon, ben ça commence bien.
Donc tu vas au prochain rond-point et tu prends la première à droite, je crois. Et on va prendre la route du lac.
Ouais. À droite, tu dis ? Exactement.
Là, Claude Ducet, clairement, vous savez où on va. Quand vous êtes aux États-Unis, c'est la même chose. Vous avez déjà l'itinéraire quand vous sillonnez l'Ouest américain.
Alors, il y a une partie d'itinéraire qui est fait, oui, exactement. Autrement, on se perdrait ou je me perdrais, ça c'est sûr.
Et vous aimez pas ça?
J'adore ça, mais les gens qui sont avec moi généralement dans ces moments-là préfèrent qu'on sache exactement où on va, plus ou moins. Mais après, c'est vrai que c'est en roulant qu'on découvre plein de choses aussi. Quand je vis ces moments-là, je suis un peu à l'affût à me dire « Là, il me semble qu'il y a un truc, mais ça peut être n'importe quoi. Un panneau particulier au bord de la route, une vieille enseigne, un bâtiment qui est un peu délabré. » Ça m'attire assez, ça, je dois dire. Ouais. Donc là, ouais, on se balade, en fait, pas tout à fait les États-Unis où on est ici. Hein. On est,
Non, il y a des villes. Déjà, c'est mauvais signe. Ah bon, ça pourrait être Napa Valley, mais c'est quand même... Napa Valley, mais un tout petit, un plus petit quand même. Hein. Avec les châteaux comme ça, ça fait pas très Napa Valley.
C'est trop vieux ça, hein, c'est ça?
Ouais, c'est trop vieux, trop bien rangé. Même trop urbain, hein, parce que là, il y a déjà tout un bourg quand même historique. Tout. Donc non, c'est vrai que la nature suisse est là aussi, elle a un charme, mais c'est une nature qui est un tout petit peu plus une nature domestiquée, mais de carte postale aussi, c'est-à-dire ça fait bien sur la table de la cuisine, et puis ensuite c'est quand même bien pour vivre. Moi, c'est pas une nature que j'aime vivre, mais je suis plutôt quelqu'un d'urbain quand je suis en Suisse.
Voilà, et là tu te prends direction Genève, tu tournes à gauche. Donc voilà, on est à Alamand. Ben, j'ai repéré en baladant l'autre jour au bord de ce lac, qu'il y avait une espèce de vieux garage comme ça qui a l'air abandonné. Peut-être qu'on va se faire tirer dessus, ça je sais pas encore, mais qui est un peu dans son jus. Puis je trouvais ça assez beau, en tout cas pour à photographier. C'est un truc. Si j'étais aux États-Unis, c'est typiquement ce genre d'endroit dans lequel je m'arrêterais, quoi.
Qu'est-ce qui vous attire dans les lieux comme ça abandonnés, déglingués, Claude Ducet?
je sais pas, la trace de l'homme. Et moi, je vois pas ça comme étant quelque chose de déglingué. Je trouve qu'il y a une part de poésie qui est assez importante. C'est en tout cas ce que je recherche, ce que j'ai envie de montrer. J'ai pas tellement envie de montrer la perdition dans le sens où les choses, elles sont anéanties, mortes. Non, je trouve qu'il y a toujours... on sent toujours la trace de l'homme quelque part, même quand il y a personne. Ces gens sont venus à certains endroits, ils ont vécu plein de choses, ils sont partis, ils ont abandonné ces trucs-là. Moi, je trouve ça assez touchant de voir des demeures qui sont laissées à l'abandon sous cette forme-là, quoi.
C'est un pays qui se transforme très vite, hein. Donc dans l'idée de transformation, il y a quand même aussi l'idée de mouvement, il y a l'idée de vie qui recommence sous d'autres formes. Donc c'est pas la mort qu'on est allé chercher sur la côte ouest, mais au contraire, c'est vraiment une forme de vie qui est le mouvement, qui est la transplantation rapide hors d'un nouveau cadre. Tout le contraire, hein, d'ailleurs, de ces maisons de maîtres là qu'on voit au bord de la route, qui là ont défié les siècles, qui sont installées ensuite sans doute pour durer encore longtemps, alors qui vont être modernisées de plus en plus, mais qui sont là pour durer, tandis que quand on construit, en tout cas sur la côte ouest, on construit pas vraiment pour que ça dure, on construit pour soi, on construit éventuellement pour ses enfants, mais les enfants ensuite revendent plus loin, parfois même on change 3, 4, 5 fois de maison en une seule vie, et puis ça fait partie de ce jeu américain qui est placé sous le signe du mouvement quand même. Je me parque là, Claude ?
Alors, on est arrivé, là, Claude Ducet, dans le lieu repéré ?
Ouais, je trouve que...
En fait, c'est un hippromage, je sais pas si je vais pouvoir rester là.
C'est pour laver sa voiture, ouais. C'est pas tellement abandonné, en fait. Il y a la station-service,
ouais,
elle fonctionne.
Là, il y a ça, mais ça, c'est abandonné.
Donc ça, c'est ce bâtiment blanc, ça... et c'est marqué Gigi Martin ou quelque chose comme ça, sur la façade.
Ça, c'est assez typique, hein, comme décor. Ces garages, on sait pas trop, un peu équivoque, on sait pas trop ce qu'il y a devant.
Ouais, non, il y a du monde.
T'as dû passer pendant les vacances. Mais je peux aller un peu plus bas, ouais. Mais au contraire, tu vois là, sur un évitement, on peut s'arrêter. Peut-être juste là-bas, je me sens qu'il y a un évitement.
Tu vas à Perroy Plage, oui, de descendre là, puis on. Ouais, il est pas si abandonné que ça, ce lieu, finalement.
Parce que ça vous déçoit, tout d'un coup, de vous dire zut, je pensais que c'était abandonné,
Non, non. Moi, je fais pas de l'urbex, comme on dit. En fait, c'est ces gens qui vont dans des lieux abandonnés, qui pénètrent dans ces lieux abandonnés pour aller faire des photos. Moi, c'est pas ça du tout que je cherche. Je cherche juste à aller saisir des moments de.
Je peux tourner là,
ouais,
là, mon avis.
On peut remonter de l'autre côté après.
Ah là ?
Non, plus loin. Ah. Sorti, tu vois.
Mais oui, mais c'est super, on est bien ici. Là, c'est pas mal. Attends, je me parque juste là.
Puis on peut remonter de l'autre côté après.
Hop. Là, on est bien là, non ?
Mais parfait.
Ah, sortez votre appareil photo.
Ouais, il y a quelque chose à faire là. Mais c'est un endroit que je connais parce que je suis en train de bosser sur un projet sur le Léman, en fait. Enfin, ouais, c'est un autre projet, ça n'a rien à voir, mais...
Mais du coup, quand vous photographiez des paysages, vous n'êtes pas seulement attiré par les États-Unis. Là, le Léman, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Ouest américain.
Ça n'a rien à voir. Non, non. Le Léman, c'est le prétexte. L'idée, c'est vraiment de faire le tour de ce lac et d'aller à la rencontre de ce qui s'y passe, des gens qui y vivent, qui y travaillent, qui font des loisirs, qui passent du bon temps. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que le principe d'être à l'affût des choses et des petits détails et des choses qui sont un peu abandonnées comme ça, c'est le principe est le même. En fait, moi, j'ai l'impression que je fais une... Mon regard fait des photos, que je sois ici ou ailleurs.
Putain, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe là maintenant ? Ça marche ou pas ? C'est le micro qui marchait plus, effectivement.
Ah bah voilà.
Et donc, heureusement, vous êtes sympa, vous m'avez accompagné pour que je puisse changer de micro. Et on va poursuivre dans ces murs de la RTS, mais en essayant quand même de retrouver les grands espaces de l'Ouest américain.
Ouais, ouais, ça va aller, ça va aller. On va essayer de recréer une sorte d'ambiance d'une manière ou d'une autre. C'est fait pour ça, la radio, c'est aussi pour imaginer des choses, on peut être n'importe où finalement.
Alors, on va prendre là sur la droite. C'est moi qui vous guide ce coup-ci.
Espace 2. C'est bien, ça.
Voilà, on est arrivé.
Ah bah tu vois, un petit côté coin de bar, là, on peut se poser là, hop, bar de saloon.
Ah, ça, la table de mixage du studio d'Espace 2, ça vous évoque un coin de bar quand on
Ah, moi, tout m'évoque un coin de bar. Je suis assez facile, je fais des associations assez rapides, hein, généralement, pour les coins de bar.
Mais un coin de bar américain ?
Ah bah oui, un coin de bar américain. Non, mais en plus, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, les bars en Suisse sont plus sympas. Les bars américains, c'est pas très sympa, parce que déjà, il faut y aller en voiture. Donc, si on va en voiture, on peut pas boire, sinon on se fait plaquer par terre par les flics. Il y a des saloons très sympas, mais disons que c'est pas la grosse fête. C'est pas vraiment aux États-Unis qu'on l'a fait, en tout cas, même en ville. Pour ça, en Europe, je crois qu'on a quand même un certain savoir-faire.
Vous avez dit, forcément, un bar, faut y aller en voiture. Avant que la technique nous lâche, on était parti effectivement, en voiture, parce que c'est contré des États-Unis que vous avez sillonné, alors tous les deux de façon indépendante, mais quand même, ça se visite ou ça se traverse forcément en voiture, ça fait partie du truc.
En hélicoptère, si on a les moyens, mais sinon, c'est même pas que c'est un désir, c'est que c'est à peu près une obligation. Il y a les Greyhound qui circulent aussi. Hein,
les Greyhound, c'est les bus.
Les bus, exactement. Il y a d'autres lignes de bus un peu plus modernes qui circulent. Il y a quelques lignes de train, mais de chemin de fer, mais c'est quand même très, très vague. Et généralement, bien sûr, ça ne s'arrête pas à l'endroit où on veut aller. Donc de toute façon, il y a un bout qui se fait en voiture, c'est presque inévitable, même dans les villes. Dans une ville aussi étendue que Los Angeles, par exemple, le système de bus, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas suffisamment. Donc tout le monde prend sa voiture, tout le monde est en voiture. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est le pays de la voiture. Tout est fait, évidemment, pour les routiers, pour ceux qui ont des immenses camping-cars, pour ceux qui ont des bus, pour ceux qui ont des 4x4. Mais c'est, je pense, en tout cas, pour aller dans le désert, la seule manière de procéder.
Mais ça fait partie de l'aventure, Claude Ducey. C'est plaisant de se retrouver roulé dans ces espaces-là?
Ouais, personnellement, j'adore. Je trouve que c'est... C'est assez perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude de ça ici. Ici, on ne fait pas 50 mètres sans faire un virage. Et là-bas, on fait des miles et des miles.
Habiter en Valais, il faut dire aussi. Hein.
Alors, je vous défie de traverser Lausanne en ligne droite ou qu'importe le lieu. Mais franchement, voilà. Et là-bas, c'est ça qui nous déstabilise, nous, Européens, où on vit dans des petits endroits un peu étriqués comme ça. Tout est petit. Et là-bas, tout est surdimensionné et les routes sont des lignes droites. Elles sont pas forcément très larges et très grandes. On n'y roule d'ailleurs pas si vite que ça. Hein. Y a plein de routes où on est à 50, 60 miles maximum. C'est pas rapide, mais ça permet premièrement de scruter le paysage, qui est quand même magnifique. À chaque 10 km, il y a des choses à découvrir visuellement. Donc ça nous permet de se mettre dans une espèce de rythme qui va avec ces lieux, je trouve. Et en même temps, la voiture nous permet aussi de nous perdre dans des endroits improbables, en disant, tiens, il y a une intersection, essayons de la prendre, on verra bien où on arrive. On arrive, on se perd un peu plus loin, et ça, c'est intéressant. Ouais.
Je vais sortir du matériel.
Du matériel qui fonctionne, hein.
Oui, c'est du matériel papier, ça va.
Oui, on sait jamais.
Voilà, parce qu'on parle ensemble de l'ouest des États-Unis, de ses contrées, etc. Mais moi, je n'y suis jamais allée, donc je ne sais absolument pas où ça se trouve. Et j'aimerais bien, je vous ai amené une carte. Comme ça, j'aimerais bien que vous me montriez, en fait, quelles sont les régions qui se trouvent dans l'Ouest.
Mmh. Bon, moi, je suis déjà de la génération qui ne sait pas lire les cartes. Hein,
mais vous êtes trop jeune, vous, Quentin Mouron. Vous, c'est GPS, c'est ça, hein?
Exactement. D'ailleurs, mon GPS m'a des fois joué des tours.
Donc là, alors je ne sais pas si c'est pris la bonne en même temps.
Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ouais.
Elle est où cette 66?
Là,
route
66. Là.
Ah oui, oui, voilà, oui, oui. Get your kids on route 66. J'essaie de trouver où est. Ah oui, attends, je te.
Alors. Là, on voit un peu plus clair parce qu'on voit jusqu'à Phoenix, Flagstaff.
Je cherche Kingman.
La route 66, c'est ça, c'est Kingman, c'est plus haut.
Alors voilà. Vous, quand vous préparez vos voyages, Claude Ducey, vous êtes aussi GPS ou dématérialisation des cartes?
Non, ça se fait plutôt avec un ordinateur à l'heure actuelle. Mais,
c'est moins poétique.
C'est moins poétique, mais plus facile à replier.
Et ça, c'est la plus belle boucle, hein. Kingman, Eggbury, moi j'aime bien toute cette partie-là.
Jusqu'à Flagstaff, ouais. Et ici, il y a cet endroit absolument magnifique qui s'appelle Salton Sea, qui est juste
C'est la mer de sel.
Ouais. Mais c'est une catastrophe écologique. Hein.
Pourquoi?
C'est un truc. Mais parce que c'est un lieu qui, si vous voulez, il y a l'eau n'est plus, il y a plus d'eau qui alimente ce plan de cette mer intérieure. Et gentiment, elle est en train de se dessécher. Et au fond, il y a un peu des métaux lourds qui sont en train de repartir à la surface.
Et donc des produits chimiques. Aussi, des produits chimiques. À l'époque, parce que elle vient d'une inondation, en partie, je crois, cette mer ou ce lac. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même, ça a été inondé, ça avait emporté, sauf erreur. Hein. Les fermes et toutes les réserves de pesticides qui traînaient un peu partout par là. Et donc, ça, tout ça, elle est au fond. Et comme c'est pas alimenté, ben, ça donne un espèce de truc vaseux. Je crois que la baignade est sinon interdite, du moins hautement déconseillée. Donc, c'est vraiment un truc assez particulier.
Il y a des photos de cette région dans votre livre.
Il y a des photos
Attendez, on arrive à choper le livre qui est derrière la carte. C'est vrai c'est que complet, c'est encombrant, une carte. Il est lourd. Il n'est pas pratique à emmener dans un sac. Hein. Ce livre, c'est Lost. Photo Claude Ducet. Poème Quentin Mouron. L'association fonctionne vraiment très très bien parce que l'un avec les images, l'autre avec le texte nous fait vraiment découvrir une région désolée. Enfin, on se retrouve vraiment pour le coup perdu à l'autre bout du monde. C'est à la fois grave, triste, beau.
Bah ça, c'est Saltonsi, voilà.
Alors attendez, ça, c'est absolument pas radiophonique.
Non, non, non.
Et ça, il y en a plein que je trouve belles, mais c'est une photo que je trouve magnifique. C'est un fauteuil, on a l'impression qu'il est en velours. Je l'imagine un peu
passé quand
vieux
même, hein.
Rose, je sais pas pourquoi, mais je le vois vieux rose. Tout déglingué et il s'enfonce dans le sable.
Alors c'est pas du sable.
C'est pas du sable, c'est quoi?
C'est des ossements de poissons.
Ah ouais.
Parce que du jour au lendemain, les poissons, le taux de salinité a augmenté et tous les poissons ont crevé, ils sont venus s'échouer sur le sable. Donc il y a une grande partie des plages, entre guillemets, et c'est des ossements de poissons qui remplissent la plage. Quoi.
Et du coup, tout l'endroit dégage ce sentiment de désolation ou c'est votre œil de photographe et votre cadrage qui a choisi de focaliser là-dessus.
Là, il y a un côté de désolation totale. C'est Saltonsi Beach ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a eu plein de trucs qui sont montés à l'époque. Il y a eu des motels, il y a eu une marina qui existait et tout. Mais tout à coup, tout est parti en vrille et tout a été abandonné. Les gens se sont tirés. Donc, il ne reste plus que des gens qui, à l'époque, ont lâché leurs économies pour dire « moi, j'ai envie d'y être là ». J'ai envie d'habiter là, j'achète un terrain, un lot, je mets une caravane dessus, puis tout à coup, je me retrouve seul ou à deux ou à trois, puis tout le monde s'est tiré. Quoi.
Ça me renvoie à un poème, mais il faut juste que je le retrouve. C'est pas celui-là. Ah voilà. Quentin Mouron.
Réparer coûte cher. Nous laissons derrière nous des caravanes enfoncées dans le sable, des baraques improbables, des fenêtres clouées, des portes condamnées. Une marche au ralenti au milieu du désert. Nous refusons de payer. Nous partons sans laisser d'adresse. Nous achetons une caravane, un sofa, une bagnole. Nous ouvrons un restaurant, un motel, une boutique. Nous poussons notre poussière encore un peu plus loin.
Ce texte est terrible. Nous poussons notre poussière encore un peu plus loin. Ça résume le livre.
Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on ressent très fortement là-bas? Parce que dans les photos, bon, on ne peut pas toutes les décrire, mais il y a un nombre de voitures rouillées, de caravanes en train de s'écrouler sur elles-mêmes. C'est vraiment une réalité omniprésente ou encore une fois, c'est un cadrage comme ce que vous vouliez faire à Alamant avec le garage abandonné?
Non, pour le coup, alors là, ça, c'est la réalité, c'est le quotidien de ce qu'on découvre là-bas. Tout au moins quand on sort un petit peu des grandes agglomérations où il y a toujours de la vie. Peut-être qu'un jour, il y aura plus de vie dans ces endroits-là aussi. Mais on sent que plein d'endroits ont été habités, plein d'endroits ont été... Il y a eu des gens qui sont arrivés, je pense, à l'époque de la rue et vers l'or, où tout à coup, on s'est attelé à aller fouiller le sol pour arriver avec des matériaux et des trucs précieux. Puis le jour où donc, les villes commencent à exister, il y a des écoles, il y a des bistrots, il y a des prisons et tout. Puis du jour au lendemain, on se dit, ben, ici, il me semble qu'on a fait le tour, donc on se casse. Donc à partir de là, je pense que ces choses, on pousse notre poussière un peu plus loin en disant, ben, ici, on a fait ce qu'il y avait à faire, allons voir ce qui se passe ailleurs. Il y a un peu de ça, mais c'est un sentiment assez présent dès qu'on sort un petit peu de ces grandes agglomérations et de ces grandes villes, quoi.
Mais du coup, est-ce que ça raconte aussi une splendeur passée, enfin une splendeur avant la chute?
Ah, mais je pense qu'il n'y a eu que splendeur. Moi, justement, c'est ça que je m'attelle à montrer. Ça veut dire que des fois, il y a certains bâtiments qui sont en ruine, certaines enseignes totalement délabrées, totalement rouillées. Les néons sont cassés, les ampoules cassées aussi. Mais forcément, quand ces enseignes étaient démesurées, elles ont quelque chose de magnifique, même à l'abandon. Je trouve qu'elles sont belles. Alors, imaginez quand elles étaient neuves et quand elles étaient clinquantes et qu'on enclenchait le truc le soir pour faire arrêter les gens qui se baladaient sur ces routes, ça devait être un truc de fou.
Ça me donne envie de vous faire écouter une musique. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. Vous êtes vraiment jeune, hein, vous n'avez pas reconnu instantanément.
Oui, mais j'ai été mangé par contre à Bagdad Café.
Moi j'ai reconnu instantanément, je cherche la photo dans le sas, c'est Bagdad Café.
C'est pas un drapeau américain.
Non.
C'est un drapeau quoi, vous savez?
Breton.
Ah, c'est un drapeau breton là?
Oui, c'est le drapeau breton. Ce sont des francophones surtout qui mangent là-bas quand même, hein, globalement. Alors pas le patron, pas... mais moi j'ai le souvenir qu'on était au milieu de deux tables de français, une table de belge. Donc je pense que c'est un film en tout cas qui a quand même laissé de fortes empreintes, surtout dans le monde francophone. Et je dis pas qu'il n'y a pas de gens qui s'arrêtent là, qui trouvent ça très sympa, mais je pense que j'ai jamais entendu parler d'Américains qui faisaient des détours de 100 km pour aller manger au Bagdad Café. Ils ont peut-être d'autres saloons, mais ils ne les distinguent pas explicitement d'un autre.
Ouais, y a quand même le côté un peu pèlerinage du cinéphile qui veut s'arrêter à Bagdad Café, quand même.
Vous?
Moi, pas sûr. C'est pas un film qui m'a. J'ai un souvenir d'avoir vu ce film. Je suis pas resté. Après, on y passe, on s'y arrête.
Donc, Bagdad Café, c'est un film qui est sorti en 88, germano-américain, qui se passe justement au Bagdad Café, un motel déglingué, un café qui a la même tête. Des clients un peu particuliers, tatoueuse neurasthénique, j'ai envie de dire, et un ancien décorateur d'Hollywood. J'ai envie de savoir quelle ambiance il y a dans ce bar aujourd'hui. Vous avez parlé de Belges, de Français, donc c'est juste un lieu ultra touristique, il y a une âme, c'est comment?
Comme tous ces bars, ces cafés, ces saloons au bord de la route 66, c'est des bars qui tiennent le coup parce que voilà, il y a des gens qui passent, ils viennent pas visiter le lieu, ils viennent déjà bouffer un cheeseburger pour en premier, et puis bah ils font deux trois photos, bah, c'est joli.
Non mais on est dans un débit de boissons et de bouffe américaine comme il y en a plein. Enfin je veux dire. Voilà, le type fait un peu la gueule derrière le comptoir, faut pas le faire chier, et puis voilà. Mais je pense que des fois, il doit se dire, c'est qui ces connards qui viennent à cause de... Il me parle d'un film, je m'en fous. Peut-être le mec qui tient ce lieu, maintenant, est-ce qu'il a vu ce film? Pas sûr, en tout cas, c'est pas ce qui s'y dégage quand on y rentre, quoi.
Je crois qu'on peut mettre la musique sur le jukebox, un truc comme ça. Donc je pense qu'il y a quand même... Mais c'est très léger. Hein,
c'est léger, pas vrai.
D'ailleurs, c'est pas tellement signalé... Donc non, en effet, on peut facilement passer devant hein, si on va trop vite.
Il ne reste que des grincements, des éloignements,
des tentatives de fuite,
du sable sur du sable. Un drapeau flotte, un fauteuil, des débris, des douilles, des chiures. Des éclats de bois et de fer, des lustres éclatés, de vieilles bouteilles de bière, un matelas, des ressorts, une voiture rouillée, un jerrycan percé. Il ne reste que des souvenirs. quelques frissons recouverts de poussière. Nous n'avons pas même la dignité des ruines.
Pas même la dignité des ruines.
Quentin Mouron.
En dehors du fait qu'on parle des États-Unis, je pense qu'on parle aussi d'autre chose. Au fond, le sable signale l'impermanence et la rend palpable, la rend en quelque sorte, l'incarne directement. Donc, cette idée-là qui est vraiment incarnée dans les murs, incarnée sous les pieds, incarnée partout. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement un livre de photos, au sens de photos qu'on peut trouver en vacances, par exemple, ou qui ont une vocation d'illustration. Je crois que ce n'est pas du tout un livre sur les États-Unis, c'est vraiment un livre sur quelque chose qui est perdu, c'est un livre sur quelque chose qui, sur un état en quelque sorte qu'on ne retrouvera pas, sans une nostalgie non plus débordante, puisqu'il y a l'idée aussi d'une transformation, on passe à quelque chose d'autre, et là, on fixe un moment avant que tout tombe en poussière.
Pas de photos de vacances, ce sont des photos de vacances. Lost, parce que vous n'avez pas voyagé ensemble ni de la même façon, donc vous, je crois savoir que les photos qui se figurent dans Lost, c'est le produit de 3 voyages successifs en famille, c'est ça, Claude Ducet ?
C'est ça, ouais, c'est ça. Mais après, comme je pars avec mes yeux, forcément que je raconte, j'ai une manière de raconter les choses. Donc forcément, quand je dis que c'est des photos de vacances, c'est peut-être un peu réducteur. C'est ma manière de regarder les choses, en fait. J'ai une écriture photographique qui est la mienne, j'ai un regard qui est le mien, et forcément que je raconte des choses même en vacances, quoi, ça c'est sûr.
Mais moi, vacances en famille, ça m'évoque de la couleur, des rires, du bruit, un peu l'opposé en fait de Lost, où là on est dans quelque chose de grave, en noir et blanc.
Ça peut être en couleur aussi. Hein. Moi, le problème de la couleur ou des éclats de rire et des choses... Quand les choses sont noyées dans la couleur et quand la couleur est omniprésente et qu'il y en a à... On ne sait plus où regarder. Il n'y a plus rien attire l'œil tellement tout attire l'œil. Je suis perdu face à ça. Donc, j'ai besoin de travailler en noir et blanc. Mais au-delà de ça, j'ai même l'impression qu'en regardant à travers mon viseur, je vois déjà des choses en noir et blanc. Ça, c'est un peu inexplicable, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Quand je regarde ma photo, je ne découvre pas une photo en noir et blanc. Je l'avais vue déjà avant en noir et blanc, c'est ça.
Ça m'évoque une autre photo. Voilà. Donc là, on est à Las Vegas. On voit une tour Eiffel, on voit de l'eau, on voit des immeubles et des palmiers. C'est en noir et blanc. Il se dégage quelque chose de relativement tranquille, j'ai envie de dire. Et puis, après... On lit un extrait du roman de Quentin Mouron, premier roman.
Il est dans le sac.
Ma vie, il y a plein de choses dans le sac. Il y a votre roman, au point d'effusion des égouts. Et j'avais envie de mettre en regard, en fait, les extraits de ce livre, parce que je trouve que finalement, l'écriture de ce roman est assez complémentaire de l'énergie et l'émotion qui se dégagent de Lost. Et ça donne... L'autoroute s'est agrandie d'un coup et j'étais au milieu d'un bouchon. Voyez le choc, si j'étais ébobie. Les larmes m'en ruisselaient d'éclats. J'embrassais d'un coup d'œil la tour Eiffel, la Trump Tower, le Colisée. J'étais partout à la fois et partout ça s'était appauvri. Eiffel en toc, Colisée en carton, les nations fatiguées. Où on n'en avait pas chindé sur les lumières. On compensait par l'éclairage, crise de volt qu'il en faut un barrage tout entier. Hoover Dam, rien que pour la ville. Le Sphinx, la pyramide, qu'on électrise la détresse, ça la rend regardable. Les touristes prennent des photos. C'est l'aubaine de voir tout à la fois. Le monde se tient sur une photo, c'est commode. J'étais un peu choquée par la déflagration. Je le suis restée pendant 2 jours. Ça vous donne des vertiges et des publicités. Des lubrifiants, des armes, des putains, Vegas. Un spectacle de magie, Céline Dion, French Cancan. Ce qu'on veut. Les avocats, les églises, un sénateur. On vend pêle-mêle, comme à Betty les puces. Mais en plus coloré, lumineuse, stroboscopique. Ce n'est pas du rêve, pas du tout. Seulement une passementerie d'ordures qui tient en féerie. Si on avait mis de la couleur sur votre photo ?
Ben, y a pas besoin, il y a le texte de Quentin. En fait, c'est vrai qu'il faudrait vendre Lost avec...
Oui, on va proposer ça à Favre, je crois.
C'est vrai qu'il y a une légitimité terrible. Hein.
Parce que moi, du coup, quand j'ai lu cet extrait, j'ai regardé votre photo, je l'ai imaginée en couleur, et en couleur, elle devenait moche, criarde, vulgaire.
C'est des fois le cas, la réalité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a aussi une interprétation dans la manière de prendre une photo. Ça veut dire qu'on déjà de prendre le parti pris, de montrer quelque chose plutôt que ce qu'il y a 10 mètres à côté, c'est déjà, c'est pas de la retouche, mais vous voyez, c'est déjà une manière de montrer des choses et une interprétation. On pense toujours que si c'est photographié, c'est vrai, alors que c'est où est la réalité en même temps? On ne sait pas où elle est. En fait, moi, je photographie des choses en cadrant. En fait, le fait de cadrer, de devoir mettre ça dans un rectangle précis, forcément qu'il y a une interprétation sur ce qu'on voit et ce qu'on ressent surtout.
En lisant l'extrait que je viens de lire, Quentin Mouron, j'ai l'impression que vous n'aimez pas Las Vegas.
Ah, en effet, j'ai jamais tellement aimé Las Vegas. Après, j'y suis pas retourné depuis un certain nombre d'années. J'aimerais bien peut-être y retourner, mais c'est une ville qui est complètement artificielle. Mais c'est pas ce qui me dérange finalement. L'artifice peut être charmant, mais c'est un artifice assez naïf finalement. Au fond, on se dit qu'on entasse à peu près tout ce qu'on a trouvé sur la planète pour en faire quelque chose, et puis ça donnera quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéresse avec cette ville, c'est que c'est vraiment une ville qui a poussé du sol comme un champignon du jour au lendemain et qui peut tout à fait d'ailleurs rentrer dans le sol. Las Vegas, c'est pas forcément éternel. Hein. On draine beaucoup d'eau, le Nevada est asséché aussi en partie à cause de Las Vegas, et puis c'est possible qu'un jour les gens se lassent et aillent ailleurs. C'est d'ailleurs une ville qui est à moitié fantôme parce qu'il y a le vieux Las Vegas. C'est d'ailleurs en fait les casinos d'il y a 20 ou 30 ans qui sont encore ouverts mais qui craignent un peu, hein, où les chambres sont 4, 5, 6 fois moins chères que dans le nouveau Las Vegas. Et donc l'ancien Las Vegas est déjà en train de retourner en quelque sorte à une forme de vestige justement, de ruine hein, presque, de ruine romaine. Alors, c'est encore ouvert, mais on voit qu'il y a déjà là une sorte de patine un peu ancienne, quelque chose d'un petit peu décati. Donc, Las Vegas va encore continuer à muter. Et puis, c'est vrai que toute cette espèce d'imbécilité qui converge, parce qu'au fond, tout ce qu'on y fait est très imbécile à Las Vegas. Hein, toute la musique qu'on y écoute est très mauvaise. C'est là où généralement vont les pop stars quand elles commencent à battre un peu de l'aile. C'est un peu le dernier contrat juteux qu'elles essaient d'obtenir à Las Vegas. Mais c'est déjà pas très rassurant généralement hein, quand on dit que je sais pas qui est en résidence à Las Vegas ou dans un casino, c'est que ça se passe mal. Ça, c'est pour les grands casinos, mais il y a toute une misère. Il y a le matin, quand on passe très tard, très tôt le matin, il y a des gens qui pleurent encore sur les tables, des flics partout, bien sûr, hein, mais quelque chose de très policier en même temps, puisque la seule chose qui n'est pas contrôlée, c'est le jeu. Donc que les gens se ruinent, ça, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Le reste est quand même assez contrôlé. Et donc, on est dans cette espèce d'océan de misère, de concentré. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse, qui me dépayse aussi, mais qui en même temps me fait réfléchir aussi. Je pense qu'on ne ressort pas très optimiste, très humaniste de Las Vegas.
C'est aussi dans des endroits comme ça où pour le coup, il y a un monde fou partout et vous êtes totalement perdu au milieu de tous ces gens qui sont devant leur machine à sous de très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Je pense que certains dorment là même. Ça joue 24 heures sur 24 et ça raconte une partie de notre monde, une espèce de c'est une espèce de grande fête foraine. J'ai jamais aimé les fêtes foraines où on doit aller, on doit s'amuser, on doit faire semblant de s'amuser. C'est un peu une espèce de 31 qui va de ville en ville. 31 décembre, il va de ville en ville. Vous voyez, cette espèce de truc où ça doit être forcément intéressant. On doit s'amuser, on doit rire, on doit... Bah c'est, Las Vegas, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai qu'après, le vieux Las Vegas a un côté beaucoup plus touchant parce qu'effectivement, il y a aussi plein d'enseignes dans ce bouquin qui viennent de ce vieux Las Vegas.
Bah, montrez-en une alors.
Voilà. Ça, pour le coup, tout a été fait dans le vieux Las Vegas. Et on voit bien qu'on est moins dans le clinquant. Il y a un peu plus de désolation. Je pense qu'ils ont eu aussi leur heure de gloire. C'est comme l'impression que peut-être Las Vegas se déplace gentiment. Ça veut dire qu'il y a eu... ça, c'est Fremont Street, où il y a ce vieux Las Vegas. Et gentiment, ça s'est construit plus loin. Donc, cela, c'est un peu à l'abandon. Plus loin, ça va peut-être un peu se patiner avec le temps. Et puis peut-être qu'on va reconstruire encore plus loin, des choses encore plus innovantes.
Mais ce qui est intéressant à Las Vegas, c'est qu'il y a absolument tout. On vend un monde, en fait, c'est très hypocrite, on vend un monde où tout est permis alors que rien n'est permis. Hein. On veut acheter de l'alcool, il faut le mettre dans des sacs noirs. Enfin, on peut fumer, ça, c'est vrai, on peut fumer quand même dans les casinos, dans le Nevada, mais... sinon, il n'y a pas grand-chose de permis. Hein. C'est très encadré, mais on nous vend une espèce de rêve où tout serait possible, alors qu'en fait, rien n'est possible. Et c'est le principe du jeu. On nous vend une richesse tout à fait atteignable, alors que dans les faits, elle est inatteignable. Et on voit, je pense, dans ces régions-là, à l'œuvre, un phénomène qui est encore actif, c'est simplement la lutte des classes. Et on le sent très bien à Las Vegas, parce que avant encore d'arriver au centre de Las Vegas, on traverse toutes ces maisons, ces empilés de maisons qui sont toutes identiques. Je ne sais pas comment les gens les retrouvent le soir quand ils rentrent. Moi, j'arriverai, je ne comprends pas comment ils font. Donc, je pense que là, sans GPS, ce n'est pas possible de distinguer sa maison de celle d'un autre. Elles sont toutes blanches. Et là, ce sont les croupiers, ce sont les serveurs, ce sont tous ces fourmis qui travaillent à Las Vegas. Et puis après, à l'intérieur même des joueurs, vous avez en bas les gens qui s'avinent tranquillement en essayant de gagner encore un petit quelque chose. Vous avez ceux qui sont dans les salles privées. Vous avez aussi, bien sûr, tous ceux qui demandent de l'argent ensuite parce qu'ils sont arrivés avec leur grand camping-car, mais ils n'arrivent pas à repartir parce qu'ils ont joué même l'argent qui restait pour l'essence. Donc, ils essayent de s'arranger. Tout ça, c'est des choses qui sont... qui existent là, mais qui sont, en fait, il ne faut pas penser que c'est simplement que nous, on fait tout bien en Suisse et que c'est Las Vegas qui a un problème. C'est simplement un verre grossissant qui permet de comprendre aussi les certaines particularités du monde dans lequel on vit. Ces problèmes d'argent, cette férocité à essayer d'en engranger un peu plus. Et puis, quand on est dans un lieu comme Las Vegas, on a l'impression qu'on est face à un révélateur. Et je pense que c'est aussi le rôle, que ce soit d'une photo, que ce soit d'un roman, de révéler quelque chose sur le monde dans lequel on vit, sur la condition humaine, sur notre expérience d'homme et de citoyen.
Replier cette carte, hein. C'est surtout ça le challenge. Le challenge de la journée, c'est arriver à replier cette carte sans faire une crise de nerfs et sans. Allez, on se laisse faire, Quentin.
On peut les plier à l'envers, hein. C'est juste qu'elles sont un petit peu. Il y a des routes qu'on ne voit plus après, mais c'est ouais. Pas un problème.
Ben, tire déjà sur le.
Moi, j'ai déjà pas lié, pas de mes draps.
Non, on va peut-être faire arriver.
Attends.
Hein? On y est. On n'est pas des voyageurs là, hein? Franchement.
Parfait. Hop.
C'était « Nous poussons notre poussière encore un peu plus loin ». À votre micro, Muriel Mera, il y avait le photographe Claude Ducet et l'auteur Quentin Mouron. La réalisation, elle, était signée Jean-Daniel Mottet.
Oui, et pour rappel, Lost est paru aux éditions Favre. Quant au premier roman de Quentin Mouron, dont nous avons entendu un extrait, il s'agit de « Au point d'effusion des égouts ». Ce livre est paru chez Olivier Moratel, éditeur.
Can I smoke in here? Can I sit down? Am I bothering you? Are you alone? Is my tie on straight? Do you rate me polite? Do I need a shave or do I seem all right? Well, names don't matter. Mine's Cash Buck. No, it's true. Go ahead, laugh. It's good for you. What's that you're drinking? I like your smile, you know. Hey, Mr. Bartender, please don't be so slow. I think we got a lot in common. That's my brand. Wouldn't trade it for the world, but we're about the same age. Outside, inside, I'm 1,000 years old. Oh, blues. I
Is this your room? Tell you, I can't do 60 like once I could. Bet you didn't know I was that hot. You didn't know I was that good. You got nothing to fear. Can I smoke in here? Well, steel player friend of mine lived right down the hall. His walls are thin, nobody heard him fall. Last of the best, without a shadow of doubt. Hilo Shag's last thing he saw before it all faded out. What's that you say? Life is like a low-budget movie? Slow down there, honey, you lost me that time. We all took less than it closed. The truest thing you said all night, that's a laugh. You can write it on my epitaph. See you in heaven or next time, whichever's first. I ain't USDA prime, but God knows you've seen worse. Just tell St. Peter at the Golden Gate I won't be late. Let me get it straight. Can I get a beer? Can I smoke in here? Where's everybody going? Where's everybody going? I'll let that clave player back in here.
Can I smoke in here? C'était Rai Kuder, le choix de Nathalie Schoenberg. Muriel Mera, demain, nous partons pour l'Italie.
Pour se replonger dans l'ambiance des années 60.
Ah.
En effet, nous vous proposons de redécouvrir une archive télé de la RTS. On a enlevé les images. On a gardé le son. Cette archive s'est intéressée à Claudia, une étudiante qui a publié dans le journal de son collège un article sur la condition des femmes dans la péninsule, imaginée en 1966. Ces prises de position jugées anticonformistes ont créé le tollé.
On vous dit Italie et vous voyez du linge pendu aux fenêtres. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout. Il y a 100 autres Italies sous le voile des idées reçues. Celle que nous découvrons aujourd'hui n'a pas 20 ans. C'est l'Italie de Claudia, une lycéenne de Milan à qui des magistrats horrifiés ont fait un procès parce qu'elle avait émis des idées non conformistes dans le journal de son école sur la condition de la femme italienne.